C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut tout le monde, je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et ce matin, on va parler de la fin hypothétique de l'esthétique Instagram. Et pour m'accompagner, je suis avec le plus stylé de mes chroniqueurs. Je suis avec Adjane Chélil.
Ça, c'est gentil. C'est un sacré compliment. Merci, Thibaut. Voilà.
Donc, est-ce que ton style va passer à la benne comme l'esthétique Instagram?
Non, je saurais me renouveler avec la nouvelle génération.
Et oui, parce que mesdames et messieurs, le monde change. Il change même à grande vitesse. Et nous sommes ravis chaque matin de vous aider à tenir bon le cap dans la tempête et les changements de tendance. Et du coup, le monde change et Instagram aussi. Les montages photoshopés à la perfection, le décor avec le petit mur floral, les cappuccinos en forme de cœur, l'apérole spritz sur la terrasse, sur ton rooftop parisien. Et bien, tout ça, c'est peut-être derrière nous. L'esthétique Instagram est-elle en train de disparaître?
Bah oui, les modes se font et se défont au rythme auquel se suivent les générations au final. Et on connaît Instagram jusque-là, comme tu disais, et même encore aujourd'hui, la majorité des photos, c'est quand même encore des photos ultra léchées esthétiquement. On a tous vu les photos de bowls de bouffe avec de l'avocat ultra saturé, avec une couleur magnifique. Ou cette fille devant un mur orange, ou ce mec devant un mur floral, comme tu disais. Donc c'est ce qui marchait sur Instagram ces dernières années, ces derniers mois, et c'est devenu petit à petit la norme d'Instagram pour devenir influenceur ou pour faire fonctionner votre marque. Il fallait reproduire ces photos-là.
Ouais, et il semblerait que le superficiel ça ne soit plus si cool que ça, cette version un peu séduisante et glamour de nous-mêmes, complètement inventée, que Instagram a vraiment popularisé, elle se heurte aujourd'hui à des réactions très négatives ces derniers temps. Et on voit à ce titre des influenceurs prendre des volets de bois vert dès lors qu'ils sont justement dans un truc un peu superficiel. Pourquoi ? Parce que ces images, elles sont loin de la réalité. Ce sont des images qui sont des mises en scène, clairement, quoi.
Ouais, c'est des mises en scène. Et puis, les gens commencent à de moins en moins apprécier parce que je pense que très vite, tous les utilisateurs d'Instagram ont bien compris que les photos des influenceurs, c'était des photos qui étaient mises en scène, que c'était pas leur vraie vie. Donc, on a très vite accepté ça et on est très vite rentré dans ce système-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un paradigme qui est en train un petit peu de changer. Et la majorité des consommateurs et des utilisateurs qui sont sur Instagram, c'est une nouvelle génération. Et eux, ils n'en ont rien à cirer que tu te prennes en photo avec tout qui est bien calé à la perfection, dans des vêtements qui sont remis par une styliste, avec une coiffeuse qui t'a recoiffé. On n'est pas dans un shooting de magazine, on est sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et on a envie de plus de spontanéité et de plus de réalité, en fait.
Et voilà, et c'est ça qui est très intéressant. Là, on est en train de vivre quelque chose de très intéressant, c'est qu'Instagram a été et historiquement le temple du beau, a été vraiment conçu dans cette idée, vraiment sur la logique de photos belles, voilà. Et puis, est en train peut-être de se transformer en temple du vrai, puisque c'est de ça dont il s'agit. Et clairement, avec un point de départ qui est pourquoi le changement est en train de se produire, c'est peut-être le point de départ, c'est que ces mises en situation idéalisées, ces montages, ces trucs un peu trichés, sont en train de devenir la norme. En gros, il y a une overdose de ces contenus, et peut-être même pire, c'est en train de devenir la norme, et qu'on sait très bien que quand quelque chose est en train de devenir une norme, elle est en train de passer de mode aussi.
À chaque fois que quelque chose devient la mode dominante, forcément, souvent, il y a une contre-culture qui naît dans son ombre. Là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un peu l'overdose. Quand tu ouvres Instagram, t'as que ça, des jolies photos toutes bien préparées. Donc il y a une contre-culture qui petit à petit est en train de naître dans l'ombre de cette culture dominante. Et on va voir que souvent, elle est liée aussi à une nouvelle génération qui a envie de se différencier.
Ouais, on peut aussi dire que Instagram encourage cette transition.
Oui.
C'est assez marrant parce que le mot Instagrammable, ça y est, officiellement quasiment rentré dans le dictionnaire. Ça décrit la situation d'une photo trop digne d'un post Instagram. Et parallèlement, eh ben Instagram écoute aussi ces nouvelles générations et se rend bien compte qu'il y a un risque de devenir un peu le musée de Madame Tussaud des influenceurs, où tout le monde a l'air très figé, en train de boire son énième, millième cappuccino de la journée. Et donc, Instagram encourage cette transition avec pas mal de choses, hein, et notamment techniquement en mettant à disposition des autres outils. Hein. Au départ, c'était que de la photo, puis maintenant, il y a plein d'autres choses qui sortent.
Bah oui, effectivement, Instagram a énormément changé là, depuis 3 ans à peu près. Donc à l'époque où ce type de photo-là a vraiment cartonné, a commencé à cartonner, c'est une époque où Instagram, c'était quasiment une exposition photographique. C'était l'image avant tout, et c'était vraiment que ça qui était mis en avant. Depuis, ça a énormément changé. Le conversationnel a pris une toute autre place à l'intérieur d'Instagram.
Ouais.
Il y a eu un développement de la messagerie privée, l'avènement des stories, la création même de IGTV.
Ouais, les stories ont eu un énorme impact de ce côté-là. Hein.
Donc, tous ces éléments techniques qui sont venus s'ajouter plus...
Les GIFs aussi, on peut parler des GIFs qui se rajoutent, etc. Donc, c'est clair que là-dessus, aujourd'hui, il y a une course à l'attention. Hein, on en est tous là, y compris d'ailleurs chez les influenceurs. Et cette course à l'attention, forcément, elle implique de ne pas faire ce que les autres font, de sortir de la norme, de prendre des risques, de créer du contenu autrement. Et à ce titre, eh bien, on constate qu'un certain nombre d'influenceurs abandonnent l'esthétique d'Instagram pour plus d'authenticité.
Oui. Et y a une nouvelle génération tout simplement qui arrive avec des nouveaux codes, comme on disait, pour se différencier des aînés. Cette nouvelle génération plus jeune qui veut s'inventer, qui veut plus en fait justement s'inventer une vie sur les plateformes et qui veut choisir des moments de sa propre vie qu'elle met en scène pour la plateforme, mais pas vraiment qu'elle met en scène, c'est même pas le bon mot en fait. Justement, c'est elle veut plus mentir en fait et s'inventer une deuxième personnalité. On a vu trop d'Instagrammeurs finir schizophrène ou d'influenceurs finir schizophrène avec des doubles vies comme ça. Cette nouvelle génération, au final, c'est un processus assez classique hein, en termes même sociologiques, de créer des nouveaux codes pour se différencier de ses aînés. C'est le lot de chaque génération et c'est comme ça qu'on définit un peu une génération quand ils ont des codes culturels qui se ressemblent. Et là, pour le coup, sur Instagram, il y a des vrais codes culturels qui différencient les millennials un peu de leurs aînés. Recopier, ça suffisait plus pour devenir au final connu sur Instagram. Fallait inventer quelque chose de nouveau. Et je trouve qu'il y a beaucoup de second degré aussi et presque de moquerie dans cette nouvelle génération par rapport à l'ancienne sur la manière dont on utilise Instagram. Et ils continuent à faire des photos des fois un petit peu léchées, etc. Mais souvent, c'est pour se payer la tête des anciens, quoi, en gros. Et eux, quand ils se prennent en photo vraiment, ils n'ont rien à cirer que leur tout soit bien remis comme il faut et qu'ils soient dans un endroit hyper joli, devant un mur avec une jolie perspective ou la lumière parfaite. Et surtout, ils en ont beaucoup moins quelque chose à faire de l'image qu'eux-mêmes vont renvoyer. Est-ce qu'ils sont vraiment beaux sur la photo? Est-ce que non? S'ils font une grimace et au contraire, même, c'est devenu une revendication, c'est-à-dire... regarde à quel point je peux être moche sur la photo et c'est fun.
J'assume totalement ça, ouais.
Et pourquoi c'est fun d'ailleurs? Parce que tout simplement, je suis cool, donc ce que je fais, c'est cool, et toi, ce que tu fais, c'est démodé.
Voilà, j'ai pas besoin de poser pour être cool, je suis cool comme je suis. On vous mettra d'ailleurs à ce titre un certain nombre de liens hein, dans ce podcast vers ces comptes d'influenceurs nouvelle génération. Et attention, hein, c'est des influenceurs qui pèsent hein, sur l'Instagame. Hein. Ils ont beaucoup de followers, plusieurs centaines de milliers de followers, et à ce titre, ils arrivent vraiment avec un style qui est en rupture avec ce qu'on fait les anciens, hein, excusez-nous pour amis influenceurs qui nous écoutaient. Hein,
qui n'avaient que 26 ans ou 27 ans, mais c'est pas grave.
Mais c'est clair que pour ces gamins qui arrivent, eux, ils arrivent en mode genre on va tout chambouler et nous, on va arrêter de faire des poses glamour, on va arrêter de... Oui, je vais montrer ma bouffe, mais ma bouffe, c'est du surgelé et je vais te la montrer telle qu'elle est. Et c'est vrai que c'est assez rigolo à suivre. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, hein, c'est qu'évidemment, cette tendance-là, les marques, évidemment, cherche à la saisir et elle s'adapte pour être plus inclusive. Alors le terme, c'est marrant, le terme inclusif, tu vois, je l'utilise pas pour rien, c'est un terme qu'on utilise habituellement dans d'autres situations, mais il s'agit quand même de ça hein. Et à ce titre, on voit un certain nombre de signaux très forts, notamment par exemple la disparition progressive des modèles trop photoshopés. Ça, c'est quelque chose qui est quand même une tendance qui est en train de prendre sérieusement forme hein. L'émergence aussi de contenu story backstage, là-dessus les marques elles se lâchent et elles disent nous aussi on en a marre que ça soit trop léché, puis on peut parler aussi des UGC.
Oui, c'est vrai que les UGC c'est en train de devenir un petit peu le poste à la mode pour toutes les marques.
Donc User Generated Content,
t'as raison, il vaut mieux répéter, nous on a l'habitude de l'utiliser comme
User Generated Content, c'est-à-dire le contenu qui est généré par les utilisateurs d'une marque et que les marques peuvent réutiliser dans leur support.
Ouais, effectivement, on va récupérer tout simplement du contenu qui est créé hein, par vos fans, par vos utilisateurs, et on va le poster au nom de la marque en citant bien sûr hein, la personne qui l'a faite. Une manière de créer un lien fort hein, avec son audience et justement là pour le coup d'être ultra authentique puisque c'est vraiment après un acte d'achat ou en tout cas quelqu'un qui possède quelque chose que vous vendez, donc forcément, ou alors une expérience qu'il a vécue et qu'il chez vous, par vos services, et du coup qui montre sur les réseaux. Donc le récupérer, c'est vraiment là pour le coup mettre l'authenticité au centre de votre message. Et justement, tout à l'heure, quand je parlais des nouvelles technologies là sur Instagram, de tout ce qui a été mis en place, c'était aussi pour en conclure et en arriver à dire que le texte et le message sont devenus ultra importants sur Instagram, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément avant. L'image était quasi exclusive avant, c'était quelque chose de central. Aujourd'hui, le message est tout aussi important. Ce que vous allez écrire à côté, en dessous de votre photo Instagram ou dans votre story, ou ce que vous allez dire du coup dans votre story en vidéo, etc., c'est ultra important. C'est plus juste secondaire, c'est vraiment central. Et en fait, là, en utilisant les UGC, c'est un petit peu ça qui se passe aussi. C'est que tout va dépendre de ce que vous allez dire, en fait, avec ces UGC.
Ouais. Et d'ailleurs, ce sujet, bah, les marques qui se rapprochent de l'authenticité, hein, quitte à abandonner un certain nombre de codes esthétiques d'Instagram, hein, eh bien, on le retrouve aussi dans d'autres mondes, hein, et notamment dans le monde de la food et de la restauration. Là, c'est assez fou hein, ce qui est en train de se produire. Pareil, même vague de recherche d'authenticité. Fini en gros le glamour, le sexy, le sophistiqué, les plats ultra manucurés. Voilà. Et place aux cantoches de quartier, aux pots de rouge sur sa nappe à carreaux. Clairement, c'est quelque chose qu'on voit et effectivement, les établissements très branchés, pokéball, salade de calais, dressage ultra instagrammable, etc., eh ben, ils sont en train de prendre un coup de vieux avec une nouvelle génération de restaurateurs, de restaurants qui, eux, assument un truc très comptoir en zinc. Voilà, on voit même des restos. Les restos à Paris, il y en a un qui s'appelle Le Routier, hein, qui est dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais. Tu as des trucs où ils font que du sandwich jambon beurre, etc. Et tu sens que cette recherche d'authenticité, elle va jusqu'à au concept, qui eux, les concepts sont en train de se déplacer vers une nouvelle forme d'instagrammabilité, hein, parce que, soyons très clairs, c'est le fake qui est en train de redevenir authentique. En tout cas, il y a cette recherche d'authenticité et on reste dans des mises en scène, mais ceci étant, on voit que le style Instagram est en train de se transformer.
Oui, c'est clair que tout ça a un impact hein, sur Instagram. Effectivement, là, tu parlais des petits restaurants de Bastille qui sont en train de changer un peu leur look. Effectivement, tout ce qui se fait comme ça dans le réel, ça a un impact sur Instagram. Mais je pense que il y a deux effets un tout petit peu différents. Il y a l'effet dans le réel qui est une recherche d'authenticité d'une génération qui est un petit peu plus vieille, parce que les mecs couvrent ou les filles hein, d'ailleurs couvrent des restaurants ou des bars comme ça dans le 11e à Paris, c'est pas des gamins qui ont 18 ou 19 ans, ils sont un petit peu plus vieux. Donc même eux, quelque part, en ouvrant leur resto et leur bar, ils ont déjà un temps de retard sur ceux qui ont 18 et sur les gamins qui ont 18 et 19 ans. Mais c'est la même recherche, en tout cas. Il y a une recherche d'authenticité que la génération des millennials qui sont sur Instagram, qui ont 17, 18, 19 ans, transmettent eux sur les réseaux sociaux parce que c'est leur outil à eux. Ils n'ont pas les moyens de transmettre ça dans un restaurant ou un bar.
Ouais, spécifiquement sur ce sujet de la resto, hein, je vous invite à lire un livre de Jean-Laurent Casselli qui s'appelle No Fake. Et il écrit ce que lui, il appelle l'hyper-France. Alors, c'est assez intéressant. L'hyper-France, pour lui, c'est une version trop authentique pour être vraie. Je vais essayer de l'expliquer. Il dit cette quête de l'authenticité, eh ben, elle a mené à ce que lui appelle l'hyper-France, une vision exacerbée de la France d'autant qui serait plus authentique que la réalité. Et c'est vrai que c'est assez marrant. On le voit, ça, on voit très bien dans les mises en scène. Achetez un magazine de déco et vous verrez qu'on est passé d'un truc très scandinave, très norvégien, etc. Et que le style est en train de se déplacer vers eh ben, du brut. Fini les murs en briques, très Brooklyn. Là, on passe vers quelque chose de plus brut, plus vrai, où on voit les câbles électriques, etc. Et en fait, cette tendance de fond, elle s'applique à tout. Évidemment, c'est une lame de fond qui est en train d'arriver. elle s'applique peut-être même jusqu'à la musique. Hein. Là-dessus, juste un petit crochet sur ce sujet. Je vous mettrai un lien vers un truc complètement délirant et un article que je vous invite à lire sur le phénomène de la Vaporwave, qui est un style de musique qui est basé sur la musique d'ascenseur. C'est un peu parodique, évidemment, et c'est un peu nostalgique des centres commerciaux des années 90. C'est assez rigolo parce que ça donne du tendanciel. Le côté très glamour, très sophistiqué, très bossé, et en train de se transformer vers un truc très assumé, un petit peu trash, un petit peu no look. Tu sais, à un moment donné, on parlait des gens qui étaient habillés en no look, que c'était un style d'être habillé comme tout un chacun. Et voilà, on la voit, cette mouvance arriver, quitte à ce que parfois elle soit un peu fallacieuse, que ça soit de l'authenticité un peu trichée. Mais en tout cas, il y a cette recherche-là.
Je pense que c'est ce dont parle l'auteur aussi, mais il y a une hipsterisation de la culture dominante. Il y a eu, on se souvient, ce mouvement hipster de gens plutôt aisés qui voulaient revenir à des choses plus authentiques, plus vraies, moins superficielles, enlever le superficiel dans leur vie, en gros. Et être plus en adéquation avec la planète, avec des choses comme ça. On a vu ce mouvement naître, je pourrais pas dire quand parce que ça fait déjà longtemps, mais en tout cas grossir en Europe il y a peut-être 6-7 ans. Et en fait, aujourd'hui, quand vous allez dans la plupart des grandes villes européennes, si vous voyagez à Berlin, à Barcelone, à Londres, à Paris, à Madrid, vous retrouvez en fait dans les bars, les restaurants, exactement cette ambiance-là. Qui est devenue en fait la culture dominante européenne. Peut-être ce qu'on a de plus fort en commun en Europe d'ailleurs, puisqu'on cherche à cette époque des choses en commun. Cette culture de un peu hipster, un peu retour à l'authentique, un peu brut, comme tu disais, avec les fils électriques, les murs qui sont même pas peints, voilà, très, très brut. C'est quelque chose qu'on retrouve de partout et ça arrive aussi sur Instagram maintenant. Mais c'est déjà la culture dominante pour moi, presque européenne. Et du coup, ça veut dire que même celle-là, elle est déjà bientôt prête à s'en aller, quoi.
Ouais, là-dessus, Instagram faisait un peu de la résistance, hein, avec des codes qui commençaient à dater. Et on voit du coup ce switch en train de se faire. Voilà, c'était notre vision ce matin. Est-ce qu'on est curieux de savoir de connaître votre avis? Est-ce que l'esthétique Instagram, elle est en train de disparaître au profit d'une autre? Place aux photos floues, aux photos un peu brouillon, un peu mode Polaroid, bien dégueulasse. Est-ce que c'est ça qui est en train de revenir? Est-ce qu'il faut abandonner vos photos arc-en-ciel et de mettre une énième bouée de donuts ou de flamants roses dans votre piscine cet été? À vous de nous dire.
Bah, venez nous dire ça surtout sur nos réseaux, @supernatif, Twitter, Instagram, LinkedIn et Facebook. Et vous pouvez nous laisser une petite note ou un petit commentaire, notamment si vous nous écoutez sur Apple Podcast.
Merci à vous tous, on vous donne rendez-vous dès demain. Salut.
Ciao.